Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission sur les femmes artistes créatrices au cours du temps. Les deux dernières émissions, nous nous sommes promenés dans le Paris de la fin 19e, début 20e siècle en compagnie de créatrices, de peintres notamment, françaises, étrangères, et nous avons même rencontré quelques difficultés à les distinguer parmi les modèles, amies, amantes, épouses, de ces artistes masculins connus, célèbres même, qui ont gravité dans les quartiers Montmartre et Montparnasse. Alors j'ai cité des modèles dont la beauté et la féminité ont inspiré des artistes, celles-ci étant plutôt talentueuses, hein, comme Suzanne Valadon, ou présentant quelques dispositions pour la peinture, comme Kiki de Montparnasse, Fernande Barré, mais sans plus. Alors, l'épouse de Maurice Utrillo, Lucie Valor, peintre à 16 heures, malgré une nature quelque peu exubérante et invasive, a au moins eu le mérite de cadrer, valoriser Utrillo, jusqu'à créer une fondation en son honneur. Quant à Marie Laurencin, elle a suivi son chemin personnel en indépendante et avec succès. Mais pour débusquer les créatrices, artistes femmes, j'ai envie de vous dire que derrière l'homme, l'artiste créateur masculin, connu ou reconnu, cherchait la femme. Car j'en ai trouvé quand même une bonne brochette et chacune a laissé témoignage de son passage, une empreinte significative même, si leur nom accuse cette fâcheuse tendance à tomber dans l'oubli. Mais je suis là pour les rappeler au bon souvenir de qui voudra bien m'écouter. Alors, qui sont-elles? Eh bien, commençons avec Madame Juliette Roche, peintre, écrivaine française, née en 1884, d'abord étudiante à l'Académie Rançon à Paris, qui s'intègre au groupe des Nabis, dont l'état d'esprit était de souligner le rôle sacré, spirituel de l'art et de la peinture. Alors ceci se distingue par un attrait pour de grands aplats colorés et une prédominance pour la lumière. Et elle s'intéressera également au cubisme. Elle produira et exposera au Salon des Indépendants. Entre-temps, elle épousera le peintre cubiste Albert Glaise. Sa peinture, ce seront surtout des scènes urbaines. Elle abordera son écriture et sa poésie de façon originale et novatrice. Elle sera en outre accueillie par Duchamp lorsqu'elle ira à New York pour se mêler à d'autres artistes et rencontrer des collectionneurs. Elle participera donc bien à l'émergence d'un art novateur en tant que créatrice. Puis voici maintenant la peintre et graveur française Hermine David, née Lionette Gartan, membre de la Société des peintres graveurs français. Alors elle passera par l'Académie Julian. Avec le peintre américain d'origine bulgare Jules Passin, ils mèneront en couple la vie de bohème au milieu des autres artistes que j'ai déjà cités, Braque, Fujita, Maurice de Vlaminck, Suzanne Valadon notamment. Elle immortalisera sur toile Kiki de Montparnasse, dont j'ai parlé l'émission d'avant, réalisera paysages et portraits et sera surtout une illustratrice très demandée, et elle recevra la Légion d'honneur. Alors j'ai regardé ses œuvres sur Internet, c'est quelqu'un en effet qui a un bon parcours artistique. Mais continuons avec Sophie Tauber, née en 1889, peintre, sculptrice, architecte et danseuse suisse, mariée au peintre-sculpteur allemand Jean Harpe, qui sera un membre fondateur du mouvement Dada en Allemagne. Alors elle commencera à étudier les arts appliqués dans différentes villes de Suisse, de Bavière, d'Allemagne, puis enseignera notamment à l'école des arts appliqués de Zurich, où elle dirigera la section textile. En parallèle, elle découvrira la danse qu'elle pratiquera dans un cabaret de Zurich, créera avec la peintre Sonia Delaunay, entre autres, une colonie d'art à Grasse. C'est quelqu'un d'actif, touche à tout, qui s'investira beaucoup dans différents mouvements artistiques novateurs. Dans ses peintures, petit à petit, elle se détachera du figuratif pour aller vers l'abstraction, si bien qu'elle présentera surtout des compositions abstraites faites de lignes verticales et horizontales. Avec Jean Harp, elle adhérera au mouvement Das Neue Leben, la nouvelle vie, l'objectif étant d'introduire l'art abstrait dans la vie quotidienne. Elle confectionnera aussi des marionnettes abstraites pour illustrer un conte satirique, Le Roi Cerf, ce qui la distinguera de par son originalité. Avec Jean Harp encore, elle collaborera également à la réalisation d'œuvres diverses, tableaux ou sculptures insolites. Elle voyagera beaucoup, participera à différentes réalisations, créations diverses, textiles, mobiliers, décorations, entre autres. En bref, c'est une vie plutôt riche et bien remplie, orientée vers le futur, la nouveauté. Et elle et son mari, Jean Harp, acquerront une notoriété internationale. Malheureusement, sa fin de vie est brusque et prématurée, puisqu'elle mourra d'un accident à l'âge de 54 ans. Alors, il me faut également évoquer la peintre Sonia Delaunay, citée plus haut, une Ukrainienne, de son vrai nom Sophie Stern, qui acquérera une éducation complète grâce à l'adoption dont elle fut l'objet de la part d'un oncle avocat et qui l'attirera du milieu pauvre et ouvrier dans lequel elle est née. Alors elle apprendra les langues étrangères, découvrira la peinture grâce à la collection de tableaux de son oncle, partira étudier le dessin en Allemagne, où la découverte du livre du critique historien d'art Julius Mayer-Graff sur l'impressionnisme lui donnera envie de découvrir la France et la peinture. Et c'est avec le fauvisme et ses couleurs éclatantes qu'elle fera ses premiers pas en France et elle apprendra également la gravure, puis se lancera dans les tapisseries-broderies. Or, naturalisée française par son mariage, puisqu'elle sera l'épouse du peintre Robert Delaunay, et avec lui et d'autres, ils fonderont le mouvement orphiste, dérivé du cubisme, nom que Guillaume Apollinaire aurait tiré de son poème Orphée, pour définir leur peinture particulière. Alors, installée à Paris avec Robert, c'est dans une fusion totale qu'ils travailleront ensemble et feront des recherches sur la couleur. Alors, sa tendance à s'orienter en peinture vers l'abstrait l'enjoindra à créer le Salon des réalités nouvelles qui existe toujours de nos jours. Alors, très créative et touche à tout, un peu comme Sophie Tauber, elle s'orientera vers l'élaboration de livres d'artistes, la mode et la création textile et remportera de grands succès avec ses créations de robes et de tissus. Alors, les Delaunay passeront aussi quelques années en Espagne avec leurs enfants et continueront de créer, inspirés par leur environnement. Et Sonia continuera de s'exprimer au travers de la mode et de la décoration, tirant des sources d'inspiration, également de la danse, que ce soit les ballets russes ou le flamenco. Alors, les Delaunay collaboreront d'ailleurs avec Serge de Diaghilev, l'organisateur de spectacles et de ballets, et ils créeront ainsi les décors. Sonia s'occupera de la création des costumes, et tous ensemble, ils remporteront de grands succès auprès du public. Alors les robes, la confection de costumes va mobiliser pendant un bon moment tout l'intérêt et l'énergie de Sonia. Elle inventera même de nouveaux imprimés dont les formes et les couleurs influenceront les peintres et ses défilés, ses mises en scène de costumes, de modèles de robes remporteront des succès croissants. Ces modèles seront copiés dans le monde entier et je vais vous lire l'une des explications qu'elle donne sur le rapport qu'elle fait entre sa peinture et la mode. Alors je lis. Tous ces travaux étaient créés pour les femmes et toujours avec une idée de construction par rapport au corps. Ce n'étaient pas des copies de tableaux transposés sur la femme comme l'ont fait d'autres couturiers avec Piet Mondrian ou les peintres du Hop Art. Donc vous voyez qu'elle a un souci d'adapter ses créations aux personnes et à la situation. Alors après la mort de Robert Delaunay survenue en 1941, elle ira se réfugier chez le couple Harpe, entendu Sophie Tauber et Jean Harpe. Elle passera beaucoup de temps à s'occuper de valoriser l'œuvre et la mémoire de son mari, si bien qu'elle réussira à le faire connaître comme un peintre majeur. Alors durant les 40 années qui lui resteront à vivre, outre les actions qu'elle mène en faveur de son mari défunt, elle continuera ses activités d'artiste peintre et de décoratrice et participera à des œuvres majeures qui lui apporteront réussite sous forme également de médailles des arts et des lettres. Elle sera en outre la première femme à bénéficier de son vivant d'une rétrospective au musée du Louvre et elle recevra après et en plus la distinction d'officier de la Légion d'honneur. Et ses œuvres seront exposées dans les lieux parisiens les plus prestigieux et en vue, comme le Centre Georges Pompidou ou le Musée d'art moderne de la ville de Paris, la Bibliothèque nationale de France, pour ne citer que Paris. Voilà pour Sonia Delaunay, connue, reconnue, célèbre. J'ai résumé succinctement son parcours, mais sa vie, son œuvre ont fait couler beaucoup d'encre, mobiliser les énergies des institutions culturelles et je ne doute pas que si le sujet vous intéresse, vous trouviez de quoi vous satisfaire. Alors une petite pause musicale me fera le plus grand bien, à vous aussi sans doute. Et je vous propose d'écouter une compositrice britannique, Rebecca Clarke, que je vous présenterai une fois que nous aurons écouté l'une de ses œuvres, l'une des premières à être distinguée. Il s'agit d'une pièce pour alto et piano intitulée Morpheus, produite sous le pseudonyme masculin Anthony Trent et créée en 1918 lorsqu'elle avait 32 ans. Thank you. Après ce long morceau de musique qui nous a transportés dans son univers de rêve et de sensibilité, voyons quelle est l'artiste femme qui en est à l'origine. Alors, la compositrice britannique Rebecca Clark, née en 1886, décédée en 1979 et donc à l'âge avancé de 93 ans, est la fille d'un Américain et d'une Allemande établie en Angleterre. Voilà pour la situer dans l'espace-temps. Elle apprendra le violon à 9 ans, incitée par son père qui adorait la musique, et s'était arrangée pour que ses 4 enfants forment un quatuor de manière à être servis à la maison, sans doute. Alors Rebecca poursuivra ses études à la prestigieuse Royal Academy of Music de Londres, de laquelle son père la retirera à cause de quelques velléités d'épousailles de la part de son professeur, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Mais ce sera ensuite pour rentrer dans au Royal College of Music, également à Londres. Alors elle laissera le violon pour l'alto sous conseil de professeur et commencera à composer en 1910 à l'âge de 24 ans en mettant en musique un recueil de poésie chinoise qu'elle intitulera Tears. Bon, apparemment, des rapports conflictuels avec son père l'obligeront à quitter le collège et devoir gagner sa vie puisque celui-ci la chassera de chez lui en lui coupant les vivres. Elle jouera donc de l'alto pour survivre et sera alors sélectionnée par le chef d'orchestre anglais, Henry Wood, afin de jouer dans le Queen's Hall Orchestra. Et ce sera l'une des premières femmes musiciennes d'orchestre professionnel. Alors aux États-Unis, elle poursuivra sa carrière, continuera à composer en prenant pour se produire un pseudonyme masculin, Anthony Trent. Et sa réputation va s'accroître et la conduira de plus en plus vers le succès. Mais en ce début de XXe siècle, elle rencontre néanmoins les obstacles dus à son sexe. Et à titre d'exemple, lorsque dans la même audition ses œuvres seront présentées sous son nom véritable, elles seront ignorées, contrairement à celles présentées sous son pseudonyme masculin. De même, lors d'un concours, le concours College, qui eut lieu en 1919, quand elle présentera une sonate pour alto, sur 72 participants, 2 œuvres seront sélectionnées, ex aequo d'abord, dont la sienne, qu'il faudra départager, et celle de Rebecca sera choisie. Mais il paraît que le jury, déstabilisé lorsqu'il apprend qu'il s'agit d'une femme compositeur, prendra l'autre option et elle ratera de peu le premier prix. Alors, ceci dit, Rebecca Clark poursuivra une belle carrière, notamment de soliste, en jouant de son instrument, l'alto, et elle continuera de composer. Alors, la Seconde Guerre mondiale apporte des perturbations, puisqu'en voyage chez ses frères, elle ne peut plus rentrer au Royaume-Uni et sera contrainte de devenir gouvernante pour subvenir à ses besoins, ce qui ne l'empêchera pas de continuer sa composition. Elle se mariera sur le tard, vers la cinquantaine, avec un camarade de jeunesse et d'études rencontré par hasard dans la rue, qui lui-même, entre-temps, est devenu un musicien accompli. Et ce sera, à ce qu'il paraît, une bonne union harmonieuse. Et par la suite, elle souffrira d'une maladie chronique qui affecte son humeur et la plongera sous une forme de dépression et cela aura une incidence sur sa composition car peu à peu elle cessera de composer et même de jouer. Et elle survivra à son mari et occupera ses dernières années à écrire ses mémoires. Alors ceci dit, Rebecca Clark sera considérée comme l'une des plus importants compositeurs du Royaume-Uni de l'entre-deux-guerres et son œuvre, oubliée un moment, sera redécouverte et remise au goût du jour fin des années 70. Alors, revenons maintenant à nos autres artistes sensiblement nés aux mêmes époques. Alors, je vous disais, derrière l'homme artiste cherchait la femme. Eh bien, allons-y, hein, nous avons encore quelques minutes pour cela. Alors, comme la peintre, illustratrice française Irène Lagutte, née en 1893, qui fut, à ce qu'il paraît, l'élève de Picasso et qui vivra avec le peintre russe Serge Férat, pseudonyme de Sergueï Nikolaïvitch Yastrebsov, je l'ai bien dit, qui dirigera avec Apollinaire la revue littéraire et artistique Les Soirées de Paris. Alors celui-ci l'initiera à la peinture et ensuite elle ne cessera plus de peindre et connaîtra aussi tous les artistes du Paris de ce début du XXe siècle. Alors en art, elle produira une peinture figurative composée de personnages qui font penser au théâtre ou au cirque, genre clown, des femmes aussi, des enfants, une peinture que je ressens plutôt féminine. En tout cas, est-ce la peinture qui la conservera aussi longtemps, car elle décédera en 1994 à l'âge de 102 ans. Alors profitons pour parler de la peintre femme de lettres française Hélène d'Oettingen, connue comme peintre, poète et romancière sous des pseudonymes masculins, respectivement François Angibou, Léonard Pieux et Roch Grey. Alors ne me demandez pas pourquoi tant de pseudonymes en outre masculins, même s'il s'avère juste qu'un pseudonyme masculin, encore à ces époques, reste le meilleur laissé-passer pour s'exprimer dans la société. Alors elle est la cousine du peintre Serge Férat, cité ci-dessus. Ils sont issus de grandes familles russes et polonaises. Ils sont fortunés, si bien qu'ils endosseront également le rôle de mécène dans la communauté artistique de Montmartre et Montparnasse de ce Paris du début du XXe siècle. Et elle aussi étudiera à la réputée Académie Julian de Paris, s'investira dans la revue qu'Apollinaire et Serge Férat dirigeront, et intitulée Les Soirées de Paris, et en outre elle fera salon pour accueillir l'élite artistique et littéraire de l'époque. Alors les événements sociopolitiques russes affecteront leurs finances, si bien que tous deux devront réduire leur train de vie, et elle subviendra à ses besoins jusqu'à sa mort en vendant les toiles et dessins qu'elle avait achetés à une époque au douanier Rousseau, surnommé ainsi en raison de sa profession, qui consistait à contrôler les circulations d'alcool, et je rappelle que c'est l'un des plus grands représentants de l'art naïf. Et Hélène d'Oettingen finira sa vie à 63 ans, victime d'une leucémie. Et nous, nous allons finir cette émission puisque l'horaire le demande. Alors merci de votre écoute et rendez-vous sur La Voix des Arts, Radio Libre en Périgord, 102.3 ou sur Internet pour la suite, j'allais dire des événements, en compagnie toujours des créatrices, femmes, artistes qui se bousculent aussi nombreuses à ma porte.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.